Alright. Now, ladies and gentlemen, this is Rockers.
Tom fracasse.
Ouais, bien vu. Bien vu, un point pour Tom.
Peut-être Jean-Loup.
Non, allez-y, allez-y.
Roger Fringant.
Sans oublier Jean-Loup Grossou.
Ouais, qu'on a décidé de bousculer un peu. C'est un peu la révolution. Après tout, allez, on est le 10 mai, pas le 10 mai 80, on est le 10 mai 2007. Les choses ont bien changé.
2017.
2017, les choses ont bien changé entre-temps. Et donc, du coup, on a quand même décidé, Tom et moi, de faire une petite révolution. Déjà, on va bousculer Papy Jean-Loup.
Bah
on
oui, a décidé que maintenant, rituel.
Et oui. Et en plus, parce qu'il est superstitieux. Il est persuadé.
Je suis pas superstitieux, mais vous savez, c'est un peu comme un joueur de foot de très haut niveau qui, avant de rentrer sur le terrain.
Aujourd'hui, on a tout fait pour que ça se passe mal. On est garé à l'envers sur le parking.
Oui,
on n'a pas notre place de parking.
Les invités ont failli se barrer. On est en train d'essayer de les soudoyer pour qu'ils boivent de la limonade.
Ils n'en boivent pas.
Toujours pas gagné.
Vous vous souvenez de la pub? D'abord, je commence par la chaussette gauche. Ensuite, je mets la chaussette droite.
C'est peut-être ça qui nous a mis dedans.
Et voilà, ce qui permet de gagner l'équipe.
C'est peut-être ça qui nous a mis dedans. Le temps que vous mettiez votre chaussette gauche et votre chaussette droite. Bref, une émission bourrée, comme tout le monde l'aura remarqué, pour la première fois de l'année depuis 2 ans en retard.
On va dire depuis 3 ans.
Presque, ouais.
Allez, on va dire d'aller.
Non.
Allez, je regarde trop.
Deux ans. J'avais décidé qu'on serait à l'heure depuis 2 ans.
Moi, je dis 3 ans, là. Je regarde trop d'émissions où il y a des enchères à la télé. Il faut que j'arrête. Il faut que je décroche. Je vais mettre sur la 5 ou sur Arte et je vais plus déconcer.
Vous pouvez arrêter la télé aussi, c'est pas mal.
Mais ça serait pas mal. Débrancher un peu la télé.
C'est pas possible.
On va y veiller. Allez, c'est parti. Un petit X de la programmation à qui?
À Jean-Loup.
Ah bah tiens. Enfin, pour une fois, il est premier, là.
2054, j'ai pas trouvé.
Très bien, très très bien. Sûrement un bon morceau. Comment il s'appelle? Fire? Non, c'est pas ça. Quand même. Fire, Arthur Brown, une tuerie.
You're telling me, but you know you've really been so bad. Now's your time.
Voilà, Arthur Brown avec un morceau qui s'appelle Fire, sorti en 1969.
Un morceau que j'écoutais déjà dans la fête foraine
de Pordic.
Oui,
mais vous saviez,
en 68.
Je vais raconter toute l'histoire, parce que je suis parti à, c'est comme ça. Eh, des surprises, Roger. Ah, faut, des fois,
Oui, mais pourquoi pas, mais allons-y,
des
soyons
trucs à savoir.
Destructurons.
J'ai récupéré une putain de caisse de la mort, et le problème, c'est une vieille caisse, et je n'ai qu'un lecteur cassette. Et donc, du coup, clac, je mets des vieilles cassettes pourries. J'entends ce putain de morceau à la con, et je me dis, mais c'est qui? Et j'essaye avec technologie moderne, vous savez, Shazam, ça vous dit quelque chose? Rien. Et là, un collègue de travail me dit, pourquoi tu numérises pas? C'est-à-dire, j'enregistre sur mon portable le morceau qui passe sur la cassette, et ensuite, je repasse avec un autre portable, Shazam, et ça a fonctionné. Ah, vous n'avez rien compris, je sais bien, mais les auditeurs qui nous écoutent, qui ont quelques notions. Et ben voilà, si vous avez les vieilles cassettes pourries que Shazam ne marche pas, numérisez donc sur un téléphone, et là vous pouvez retrouver le nom de l'auteur.
Moi j'étais le premier surpris quand même.
Et ben voilà, Arthur Brown, Fire!
Voilà, qu'on écoutait déjà à la fête foraine de Pordic. Pordic qui a bien changé, j'y reviendrai là-dessus tout à l'heure.
Vous avez l'air perturbé.
Non, je suis absolument pas perturbé. Au contraire, je trouve ça bien quand on déstructure. Donc une émission bourrée, mon bon Jean-Loup, puisque nous recevrons tout à l'heure Déménage-moi. C'est, si je ne dis pas de bêtises, une société de déménagement.
Ah oui, elle fait peur, là, là.
Et dont j'ai découvert comment l'existence dans le magazine Bikini. Bikini, qui était en vente libre, d'ailleurs, qui était donné gratuitement, d'ailleurs, à Canal B. C'est ici même que je me fournissais. Et donc, du coup, ils ont une idée un petit peu surprenante. Ils vont créer, ou ils ont déjà créé, on va revenir là-dessus plus en détail tout à l'heure, une sorte d'atelier défouloir, mon bon Jean-Loup. Quand ça va pas dans votre tête, quand vous êtes mal,
bon,
vous avez
L'émission que je m'y attends pas, par exemple.
Voilà, par exemple. Eh ben, vous allez chez Déménage-moi et on va vous expliquer tout ça tout à l'heure. Eh bien, vous allez pouvoir vous défouler, qui peut-être sur une télé, je sais pas qu'est-ce qu'on va vous proposer.
Mais attends, si vous racontez tout, Roger, il n'y a plus rien à dire.
Non,
après.
Mais il faut bien savoir sur quoi on va taper, parce que il faut aussi qu'on fasse un petit peu le chaland, mon bon Jean-Loup, pour attirer l'auditeur.
Vous êtes capable de donner un coup de poing à une télé,
qui nous avait un peu déserté pour regarder l'espèce de pugilat minable entre Macron et Marine Le Pen.
Bon, on en parlera tout à l'heure, justement, parce que là,
Et donc du coup, dans cet atelier défouloir, vous pourrez justement vous défouler, comme son nom l'indique, et péter des trucs. Voilà. Est-ce que ça va être péter des trucs pour péter des trucs ? J'en sais, si moi je le sais un petit peu parce que j'ai lu l'article. En tout cas, eh bien, nos deux invités vont venir nous en parler d'ici à un petit quart d'heure, on va dire.
Voilà, le temps que justement on fasse un petit peu le débriefing des dernières élections.
Il paraît qu'il s'est passé des
élections. Et vous savez qu'il y avait mercredi dernier un débat qu'on a loupé ou qu'on n'a pas loupé, j'en sais rien, on verra. Allez, un petit coup de musique, c'est parti.
Yeah, oh my. C'est maintenant devenu une habitude, les grignoux ont en chaque début d'émission et chacun leur tour une rubrique personnelle.
C'est ça en fait, tu vois le truc.
C'est ça Philou, t'as tout compris, c'est un petit peu entre le clin d'œil, le coup de gueule du moment, mais aussi le détail de la vie trépidante d'un grignou.
C'est ça en fait, tu vois le truc.
Maintenant, le problème va être de savoir qui a l'honneur d'ouvrir le micro aujourd'hui. Et ça, c'est pas facile.
Attendez, attends, tu me vous laisses parler, mais tu me laisses parler.
Ah, il est en train de me tirer par la violence, oh, et ça me coûte cher.
C'est ça en fait, tu vois le truc.
Et oui, c'est ça la rubrique perso.
Bon, rubrique à Roger.
Hein. Bah oui, ouais. Alors donc
je gagne par KO.
Votre tiens, analyse, je commence votre tout debriefing.
Suite, je commence tout de suite avant que vous me comment buzziez par le maire de Saint-Priest. Alors je sais pas où c'est. Si comment, je sais même pas où c'est Saint-Priest, mais c'est peut-être une commune où j'aimerais bien y passer ma retraite. En tout cas parce que il y a un super maire qui était fou furieux puisque 155 électeurs avaient voté Marine Le Pen au premier tour. Un chiffre jamais atteint dans cette petite commune. Bah ça y est, je sais où c'est. Maintenant c'est dans le Puy-de-Dôme. Mais ça l'a tellement gavé que ça l'a un petit peu énervé, donc il s'est livré un petit peu sur les réseaux sociaux à une critique en règle des gens qu'il soupçonnait avoir voté Marine Le Pen. Alors ça donne un petit peu ça. À toi, Pierrick, qui pense que l'on ne peut plus sortir tranquille, je veux simplement te rappeler que la dernière fois que quelqu'un s'est fait molester à Saint-Priest, tu n'étais pas né. À toi, Émile, qui peste contre toutes les aides sociales, je te rappelle que tu es celui qui a bénéficié des plus gros montants au titre de l'aide de la collectivité pour l'habitat et que ta mère reçoit l'APA. À toi, Olivia, qui met en avant que les logements sont réservés aux autres, je te rappelle que tu habites un logement social à Saint-Priest. À toi, Daniel, qui veut faire payer les fraudeurs, je te rappelle que bosser au black, c'est pas la règle. À toi, Céline, qui trouve que les associations perçoivent trop d'argent public, tu pourrais au moins une fois emmener l'équipe de ta fille en déplacement au lieu de déposer systématiquement devant la salle de sport sans même saluer les encadrants. À toi, Marcel, qui honorera ta présence à la cérémonie du 8 mai, pense à ceux qui, dans les années sombres, ont fui la guerre, comme d'autres le font aujourd'hui. Pouf! Et il dit ensuite, il conclut en disant aux 143 autres qui souhaitent une petite phrase avec leur prénom, je me tiens à leur disposition. Et c'est assez rigolo. Alors je sais pas s'il souhaite être réélu, s'il a déjà démissionné, mais comme le dit le canard enchaîné, bah ouais, si tous les maires pouvaient lui ressembler, parce que effectivement, c'est assez caustique.
Alors déjà une petite question, il y a combien d'habitants à Saint-Priest?
Je sais pas.
Parce que s'il y a 17 000 habitants, 150 voix, c'est pas grand chose, mais s'il y en a 300, c'est quand même énorme. Est-ce que deuxième question.
Si
est-ce
c'est que les... ça qui vous voulez, si c'est ça que vous
est-ce
voulez...
que les prénoms sont fictifs? Ouais, parce que moi, ça le maire, si mon maire sait pour qui je vote, je trouve ça extrêmement inquiétant, là, le.
Alors justement,
on a l'impression
si
que Mélenchon
chiffres,
est au pouvoir, là, le...
Vous voulez des chiffres? Alors tout le monde sait que Macron a gagné, mais il y a des chiffres plus pointus. Il y a des chiffres rigolos. Par exemple, faut savoir que 26 communes ont voté à 100% pour Macron. Dans l'Aude, dans la Drôme, dans la Haute-Garonne. Au total, 26 communes n'ont donné aucune voix à Marine Le Pen, principalement dans le sud-ouest de la France. Amusant. Deux communes ont voté à 100% Le Pen, ça c'est perché vous. Oh, il m'a dit tout à l'heure que c'était à l'est ou très très loin, mais c'est à Orne, dans la Meuse, et à Thé sous Vaudemont, en Meurthe-et-Moselle.
Ça, voilà, c'est loin, ça, c'est très loin.
Respectivement, 17 habitants et 23.
Et d'autre part, un autre truc rigolo, Macron et Le Pen sont arrivés à égalité dans combien de communes? Un chiffre incroyable. Comment deux candidats peuvent arriver à égalité parfaite?
Alors, des milliers.
311 communes ont réalisé un score
50-50.
Ouais, 50-50 à l'image de Gundershofen dans le Bas-Rhin, 2900 habitants. Voilà. Et enfin, le dernier truc, plus de 50% de bulletins blancs et nuls dans le village de l'Ariège. Alors ça y est, justement, je voulais rebondir là-dessus. C'est la première fois qu'on commence un peu à parler du bulletin blanc et qu'on lui reconnaît une certaine légitimité, puisqu'on reconnaît quand même aux gens qui ont eu le courage d'aller voter le fait que, bah, effectivement, voter blanc, ça peut vouloir dire quelque chose. Et ça, c'est plutôt intéressant, là, parce que jusqu'à présent,
on l'ignorait. Et là, c'est ce qui a évolué. Par contre, là, je suis pas d'accord.
Mais on arrive à près de 10%.
C'est 12. C'est 12. 11,7 ou 11,8, j'arrondis à 12, comme les hommes politiques. Là, par contre, où là, ils sont pas nets, c'est les blancs ou nuls. Alors que la loi est claire, c'est blanc d'un côté, nul de l'autre, ce qui est pas du tout la même chose
tout
ni la
fait.
Même démarche.
Parce que si là, on vote mandrin, par exemple, ça c'est nul.
Là, on se fout un peu de la gueule de la démocratie quelque part, donc c'est nul. Par contre, on vote blanc, c'est une décision qu'on a prise. Et c'est vrai que ça a été furtif, on est d'accord. Mais avant, c'était pas du tout évoqué. Mm-hmm. Mais on a, ils l'ont quand même
pour le vote un blanc. Peu sur les radios, à la télé, ils ont quand même pas pu faire un peu l'impasse, parce que comme vous le disiez, moi je m'étais arrêté à 10 et vous me dites 12%.
11, bah Tom a vérifié en quelques
secondes. Mais ça commence à représenter effectivement du monde.
Alors moi j'aimerais revenir aussi sur le débat qu'on a loupé. Alors, j'ai rien compris à la technique de Marine Le Pen, où elle s'est suicidée toute seule, ou est-ce que elle s'est sabordée quelque part dans le sens où on a dû lui dire hey, Marine, tu restes calme, tu restes maître, c'est le deuxième tour, alors on n'est plus dans les meetings ni quoi que ce soit, tu te calmes. Macron l'a très bien compris apparemment, tout, enfin moi les extraits j'en ai vu, très calme, très posé, très pédagogue, et tout de suite elle attaque comme son père en fait.
Alors justement j'ai trouvé des sources sur internet qui disent que en fait comment le Front National se serait il serait adjoint des services d'un espèce de psychologue italien qui appartient au MSI, c'est-à-dire le parti fasciste italien, et en fait ils l'ont embauché, cette espèce de savant fou,
comment fasciner les foules
et voilà, et puis là c'est lui qui aurait conseillé Le Pen, et bah écoutez, il est reparti en Italie avec pas mal d'euros dans les poches et Marine avec la défaite.
Mais voilà. C'est vrai qu'on peut exiger, l'école, mais au moins un président posé, calme, maître de ses nerfs, et à se demander même si c'est pas s'aborder toute seule du style oh putain, si je suis élu, je suis pas dans la merde. Et pareil au niveau des analyses, Macron est en train de, alors je sais pas si c'est volontaire ou pas, en train de créer un séisme, que ce soit au niveau de du Parti Socialiste.
Les socialistes, quel était le pourcentage d'abstention?
Ah non, c'est pas ça que je veux dire. C'est là maintenant qu'on parle législative, les Républicains qui c'est qui va être vis-à-vis de En Marche, qui c'est qui reste pur, les socialistes, je sais pas. Alors par contre, stratégie aussi de Marine Le Pen. Je me demande si c'est pas voulu cette histoire de débat. Il faut qu'on se refonde. Je reste à chef quand même, quoi. Il faut qu'on ait un autre discours. Du coup, toutes les conneries comme l'euro, où visiblement ça ne fonctionne pas, on élimine, quoi. Et il faut qu'on élimine la référence aussi au Front National de Jean-Marie. Donc on change de nom. On va passer à le National Front, par exemple, qui n'a plus rien à voir. Sauf que le problème,
ça sera plus soft que ça. Sauf que le problème, c'est vraiment effacer
l'héritage de Jean-Marie Le Pen. Faudrait peut-être pas qu'elle s'appelle Marine Le Pen. Elle a été mariée, cette femme-là. Elle peut reprendre le nom de son ex-mari, éventuellement.
Eh oui, mais c'était son ex.
Oui, Roger, comment vous faites pour faire, vous savez très bien, vous n'arrivez pas à faire deux choses en même temps.
Eh bien, si. J'arrive à vous dire, alors justement, vous parlez du Front National, ce qui est rigolo, c'est que, je sais pas, il y a Marion Maréchal qui disparaît. Je pense que c'est quand même une bonne nouvelle parce que, je pense qu'elle faisait kiffer pas mal le bon petit peuple. Vous avez vu les scores qu'elle a réalisés. Elle a quand même failli être élue à la tête de la région PACA
comme on dit vers chez moi, qui fait une peine bosse, vous l'avez déjà vu sourire.
Non.
Alors que normalement, à cet âge-là, c'est la joie de vivre, en théorie.
Ouais. Elle est partie porter sa joie de vivre en Afrique, il paraît. Écoutez, c'est très bien. Avec son papa,
elle va revenir avec
business.
Un grand black. Faire chier sa tante.
Voilà. Bah, écoutez, peut-être qu'enfin, elle tue le père ou le grand-père, allez savoir. Tiens, un dont ça m'a fait plaisir qu'il en prenne plein la goule aussi, c'est Manuel Valls. Vous savez, le traître de service, le fourbe dans Shakespeare, toujours noir, avec le couteau derrière le dos. Et donc, après avoir refusé d'honorer sa promesse écrite de soutenir le candidat qui l'emportait à la primaire, bon, on s'assoit déjà sur ce qu'on écrit, eh bien, il a voulu, vous êtes sûrement au courant, naturellement, aller rejoindre la candidature En Marche. Et En Marche, je viens de le dire, oui, mais non. Oui, non, parce qu'il ne remplit pas tous les critères. Et n'empêche que Macron serait quand même bien con de s'adjoindre les services d'un horrible qui fait la gueule. Vous disiez parler de Pen Bosch, justement, à propos de Marie-Françoise, ou je ne sais plus comment elle s'appelle.
Marie-Jeanne.
Marie-Jeanne Le Pen, s'il y en a un qui ne rigole pas beaucoup, non plus, c'est le père Valls. Vous l'avez vu sourire, vous, déjà, ce mec-là?
Pas vraiment, mais bon, c'est un catalan, hein. Les catalans, ils sont bizarres, ils sont pas comme nous, quoi. Les vrais gaulois de souche, les vrais gaulois de souche, en fait, là, pour le moment, vous, déjà, Tom, vu de votre patronyme, vous êtes pas très, très, très clair.
Bergerman.
Et vous, Roger, il suffit de vous regarder pour savoir que, voilà. En fait, le seul gaulois de souche ici, c'est moi.
Ouais, ah, donc, vous, bien êtes sûr, gaulois, vous êtes gaulois de rien, pas plus que vous n'êtes visionnaire, comme à l'image de François Bayrou. C'est marrant, le Canard Enchaîné se fait un plaisir aujourd'hui de faire la liste de tous ceux qui ont dit que Macron serait pas élu. Alors, on commence par François Bayrou, hein, quand même, qui est dans le Marigot, là, pour essayer d'être ministre. Il a déclaré le 7 septembre 2016, je vous dis, ça marchera pas. Et qui s'est même planté? Ben, Bayrou toujours. Dans 15 ans, quand il aura vécu ce qu'il doit vivre, Macron sera prêt. Mais pour l'instant, il n'y a rien, effectivement. Martine Aubry, Macron, elle avait dit qu'elle en avait ras-le-bol. Ça n'augurait pas de l'avenir de Macron. Par contre, Nicolas Sarkozy avait déclaré, que voulez-vous que j'en pense? Il est cynique, un peu homme, un peu femme. C'est la mode du moment. Mmh. Amusant. Et enfin, Bruno Leroux, qui disait, en tant que socialiste, il disait, je ne pense pas qu'il sera président. Ben voilà. Et maintenant, désormais, c'est Leroux qui ne sera plus ministre. Qu'est-ce que je vous dis?
On sait que vous avez dit, heureusement, vous avez, le Canard Enchaîné, parce que sinon, vous pourriez plus penser par vous-même.
C'est aussi bien que par TF1, voilà.
Mais il faut qu'on pulvérise les habitudes, vous avez dit. Allez-y.
You know it's
faudrait savoir.
Bah, ah,
alors, faudrait savoir. Allez, on déstructure. De toute façon, il y a toujours pas de lumière rouge. C'est déjà déstructuré depuis longtemps. Et je crois que Jean-Loup avait envie de vous dire.
Bah, justement, on a parlé des présidentielles, c'est une chose, mais les législatives, alors vous, qui n'aimez personne, en fait, la gauche, on pourrait vous qualifier d'anarcho-syndicaliste, quelque part.
Mais comment dirais-je, en tout cas, je pense que bah il faudra peut-être penser à se tourner. C'est chiant de dire des consignes de vote, c'est pas notre but.
Ah bah non, c'est justement. Moi, je suis un peu encore plus en désarroi que pour les présidentielles.
Non, pas vraiment, parce que alors, vous avez le choix.
Je veux toujours voter blanc.
Vous pouvez toujours voter. On est bien chez nous. Vous l'aurez tout de suite reconnu. Vous pouvez voter. Vous avez plein de choix. Maintenant, effectivement, si on veut du progrès social, si on veut une politique de gauche, on voit effectivement que le choix se resserre parce que chez les socialistes, on ne sait pas très bien si on va voter pour un socialiste socialiste, un socialiste Macron ou un socialiste
Valls ou un socialiste Hamon.
Alors, espérons que Valls effectivement soit définitivement barré, va virer du PS, ça permettra de clarifier les choses. Et sur quel programme effectivement les socialistes vont se présenter aux législatives, parce que là c'est rigolo, chez les Républicains c'est pareil. Sarko est ressorti de sa tombe, façon Nosferatu, et hop, il vient de ressortir son programme de la primaire qui vient de rebalancer pour les législatives. C'est-à-dire que le cadre du programme des LR, comme il s'appelle encore, eh bien, ce sera le programme de Sarko pour la primaire. Bon, c'est déjà mieux que le programme de Fillon, vous me direz. Il n'y aura pas comment deux ministres, comment ultra-cato dans le gouvernement. Mais ça voudra dire vraisemblablement une cohabitation dure avec Sarko derrière. Donc le mouvement En Marche risque effectivement de rester assis sur sa chaise. Reste votre ami la Méluche, comme l'appelle votre invité.
Oui, bah que tout le monde l'appelle
la
comme ça.
La semaine dernière, non, c'est un mélange.
Emmanuel Macron, dans le documentaire qui est passé sur TF1, l'appelle la Méluche.
Alors après, ils vont s'étonner.
Il y a que vous qui l'appelez la Méluche.
Avec non, toi, vous l'appelez comment?
Moi aussi, la Méluche aussi.
Ouais, avec un petit air de sympathie derrière.
On a le droit.
Bah, le problème de Mélenchon, il n'est pas né à la bonne époque. Il serait né, je sais pas, il a eu cet âge-là dans les années 30 ou 40. Je pense qu'il a pu faire une belle carrière, très autoritaire.
Bah voilà, comment vous le voyez. Ça ne vous a pas empêché de voter pour lui. Et vous avez été frustré de la victoire. Vous faites votre bougon.
Pour les législatives, qu'est-ce qu'il fait? Il se débarrasse des communistes. Oh, on n'a pas trouvé d'accord.
Il a raison. Alors, c'est pas vous qui allez quand même défendre les communistes après avoir dit du mal pendant 30 ans. Vous voyez, parce qu'il me dit, il est en train de défendre les communistes pour dire du mal de Mélenchon.
Qui s'appelle plus le PC.
Ce n'est pas très...
Qui s'appelle plus le PC, qui s'appelle le GEC, en fait, le groupuscule communiste qui représente zéro. Même Poutou doit faire mieux, je pensais que par là.
Alors justement, parlons des législatives. Il va se passer plein de choses, et sûrement en plus l'occasion de voir encore plein de, comment dirais-je, candidatures exotiques, souvent à Rennes. Je sais pas si vous avez remarqué le nombre de listes de gauche et à gauche de la gauche qu'on trouve à Rennes. Ça risque effectivement d'assez perturber le débat et de permettre, je pense, aux socialistes bretons de rentrer les pieds dans leurs chaussons. Vous êtes inquiet, je vous sens inquiet.
Je sais pas. Là, c'est vrai que Macron, quelque part, ça reste un mystère. D'après la droite, il est de gauche. D'après la gauche, il est de droite.
Je sais pas. Centre.
Et on va peut-être conclure, parce que l'heure tourne, mon bon Jean-Loup, comment avec tout ça, avec deux trucs qui m'ont particulièrement énervé, sur Antenne 2. Ah non, on dit plus Antenne 2, on dit France 2.
France 2, oui, là, attends, France...
Donc sur Antenne 2, on disait de mon temps, quand il y avait encore le général de Gaulle, eh bien sur Antenne 2, le journaliste enamouré pour la victoire de Macron déclarait, pas plus tard qu'à 20h07, on devait avoir 20h07, 20h08, il avait sans doute sniffé du poppers, qu'on n'avait pas eu un aussi jeune président depuis Napoléon. Alors il faudrait peut-être rappeler aux journalistes d'Antenne 2 ou de France 2, je sais pas comment ça s'appelle maintenant, que Napoléon n'a jamais été président de la République. Il a été au mieux premier consul après un coup d'État en 1799. Il a viré avec... il est venu avec l'armée, ni plus ni moins. Il est venu avec des soldats.
Ah, c'est un argument de quoi?
C'est un coup d'État. Il a chassé les députés de Thermidor. Il les a chassés de l'Assemblée. Il a mis à sa place un triumvirat. Il y avait avec trois consuls. Il était premier consul. Les deux autres, deuxième et troisième consuls ont bien vite disparu dans les méandres de l'histoire. Et Napoléon est resté tout seul. Or, il n'a donc jamais été président. président, il faudrait le rappeler. Je sais pas, est-ce qu'ils ont un dictionnaire chez Antenne 2?
Ouais, puis même le suffrage n'était pas universel à l'époque, même s'il avait été élu quelque part.
Il n'a jamais été élu.
Bah, mais imaginez.
Bon, non, il n'y a pas d'à imaginer. Il n'a jamais été élu président.
Cassons les règles. Imaginons. Oh,
mon Dieu. C'est ça le problème avec la télé, Jean-Loup. Vous ne vous rendez plus compte à quel moment ils sont en train de perdre les pédales. Ce qui m'a fait aller sur France Inter dans mon bain, c'était plus éclairant avec un, c'était rigolo, avec un espèce de vieil historien qui arrêtait pas de gueuler, dit, je vous l'avais dit, que Marine serait là et tout, c'était beaucoup plus drôle, et on ne parlait pas de plus jeune président depuis Napoléon. Mais vous allez sûrement rebondir sur la scénographie du Louvre.
Oui, c'est vrai que, je sais pas qui l'a imaginé. On fait abstraction
de... Vous avez vibroté.
Je pense que l'image était belle.
Il a vibroté.
Ah, dans le symbole. Alors, la marche était chiante.
Vous sentiez les poils qui se hissaient, qui se dressaient sur vos avant-bras.
La marche était paix de couille. Un petit peu longue. Des marches pas trop assurées. Par contre, l'image, je sais pas qui c'est qui a trouvé, ou qui a eu l'idée avec ce con, on appelle qu'on prend de bas, ce contre...
Contre-plongée,
voilà. Avec la pyramide derrière.
Il paraissait plus grand.
Ouais, et puis Valls, lui qui avait les bras,
Macron.
Je sais pas, veut dire que vous avez, de toute façon, vous connaissez, vous allez diffuser rapidement. Oui, Jean-Loup, c'est un macroniste.
Non, c'est vous qui êtes là. Ou un macronien. Je vous vois bien, vous avez la chair de poule quand vous parlez de Macron. Vous avez le poil de l'avant-bras qui se dresse.
L'image est bien belle.
L'image est... c'est con parce que les auditeurs peuvent pas témoigner parce qu'ils ont pas l'image. Mais Tom,
oui, vous on le voit,
est-ce que son poil se hérisse?
Oui, et il a l'œil qui brille.
Vous, votre gueule, non, mais c'est, ici, on a l'impression que c'est hop, selon les, il mange à tous les râteliers.
La jalouse,
un petit coup.
Elle est jalouse.
C'est moi qui l'ai fait, c'était
vous
le
savez
mien.
Quoi, elle va faire sa mélange.
Allez,
un petit mix, et puis il va peut-être falloir qu'on parle peut-être de nos invités.
Une petite annonce aussi qu'on m'a demandé de communiquer suite
de toute urgence
à l'interview de Jean-Charles
Petit Jean,
et la semaine dernière où la qualité sonore n'était pas forcément top, donc il nous a demandé de rappeler que ce samedi 13 mai, il y aurait la marche mondiale du cannabis. C'est à 14h. Et c'est où, à votre avis?
À Rennes.
C'est pas Villejean. Hein.
Non,
mais c'est à Rennes.
C'est à côté, c'est à face, c'est sur le champ de Mars.
C'est pas au Blon?
C'est sur le champ de Mars.
Non. Mais c'est quand même un haut lieu, en fait, de la dépénalisation. C'est à République.
Ah, c'est à République.
Eh oui, tant qu'à faire, comme ça ils vont se mêler à la foule. Voilà, 13 mai, si vous êtes concerné par le problème, 14h, place de la République. Un petit disque?
Un petit disque.
Little number, you know that. dress on my collar when I kiss in my bed. Fine of night by the light of the moon. Oh, I'm burning, feeding from my head and my fins. You got me on your case, now you're the one to miss. Well, I'm alone now, baby. Down in a traffic yellow. Well, I'm alone now, baby. Down in a traffic yellow. Down in a jungle where the jump in. If you under the wind, can you find a chin? What a pretty feeling from my head and my fears. You got me on your back, now you're the wind to hear. Well, I'm alone now, baby. Down in the top of your nose. Well, I'm alone now, baby.
Flexibilité égale mollesse. Nous ne changerons pas, répètent inlassablement Roger et Jean-Loup. En effet, comme chacun sait, par définition, un grignou grigne. C'est sa nature, il n'y a rien à y faire, c'est comme ça. Non, n'essayez pas de trouver des arguments du style « les gens changent » ou je ne sais quoi. Ce ne sont pas des gens, ce sont des grignous. Et pourtant, certains événements d'importance peuvent, dans certains cas, et sous certaines conditions difficiles à y réunir, réjouir un vieux machin. C'est la rubrique Bonne Nouvelle.
Voilà, et bien ce soir, une émission qu'on a failli pas avoir, parce que première fois qu'on est en retard, et il pleuvait, le temps était gris, et je ne sais plus trop bien ce qu'on avait convenu, en tout cas, si vous veniez qu'un peu plus tard, après la rubrique des Grignoux, si vous débarquiez dès le début. Bref, nous recevons ce soir Nicolas et Jennifer, bonsoir.
Bonsoir.
Qui sont tous les deux là pour nous parler de la société Déménage-moi, c'est bien ça? Qui se situe. Alors j'ai l'affiche.
Rien, vous savez où ça va l'ordinateur.
C'est pour ça que j'avais.
Ah ouais, il regarde et tout. Il tire la langue, il met du temps, voilà, mais il trouve.
Voilà. Il y a même une photo. D'ailleurs, il y a une photo de vous. Et du coup, vous êtes situé où exactement? La société Déménage-moi est située sur quelle commune?
Alors, elle est située à Noyal-Châtillon-sur-Seige, pas très loin de l'écomusée de Rennes.
D'accord, l'écomusée, vous rappelez, je vous avais emmené un jour.
Oui.
Le problème de mon ami, c'est qu'il quitte pas la rocade.
Non.
Ah oui,
non.
Après
j'ai peur. Il y a des gens qui votent Front National.
J'ai peur. C'est vrai que dans la campagne, qu'est-ce que ça a donné à Noyal-Châtillon-sur-Seige d'ailleurs?
J'en sais rien du tout.
Vous en savez rien du tout?
Vous osez pas le dire, c'est ça plutôt.
Et puis on n'habite pas à Noyal,
on habite à Saint-Jacques.
Alors qu'est-ce que ça a donné à Saint-Jacques?
À Saint-Jacques.
Je crois que c'est la même tendance qu'à Rennes.
Oui, hein,
je pense.
Oui.
C'est très faible FN et plutôt de gauche, il me semble.
D'accord. Ça m'étonne pas de Saint-Jacques, depuis qu'ils ont un aéroport.
Ils nous ont donné leur maire, d'ailleurs. Il y a eu un maire qui est resté à la tête de la mairie de Rennes qui venait de Saint-Jacques. C'était votre ancien maire, d'ailleurs, il me semble.
C'est possible.
Voilà. Ça, on parle des années 30, quand Roger était jeune.
Arrêtez de me passer pour faire passer pour un vieux. Nicolas et Jennifer de la société Déménagement, qui, elle, bien que basée à Noyal-Châtillon-sur-Seiche, c'est bien ça.
Oui.
Eh bien, opère dans tout le bassin rennais.
Ah, c'est une société qui déménage, vu le nom. C'est-à-dire que vous êtes déménageur, pour résumer.
Oui, tout à fait. Déménagement, transport, débarras, tout ce qui touche un peu, tout ce qui touche un peu à ce qui tourne autour de ça, quoi. C'est, on porte des trucs avec les bras, on les met dans le camion, on les transporte d'un point A à un point B, donc tout ce qui s'y rapproche.
Et vous, Jennifer, pareil, vous êtes déménageuse?
Alors non, pas du tout. Moi, du coup, je suis thérapeute holistique, en fait. Donc,
d'accord.
Du coup, à la base, c'est pas vraiment lié. Donc, on a réussi à trouver le lien,
c'est
justement, de ces deux métiers. Donc, par le projet qu'on est en train de mener, justement, à bien, actuellement.
Voilà, et dont on va parler ce soir. Mais moi, j'ai envie de revenir avec Nicolas, savoir pourquoi on devient déménageur. Moi, c'est quand même un métier. Moi, j'en ai une image quand j'étais môme. J'adorais voir comment on appelle ça, les stuntmen. Vous savez, c'est les cascadeurs, des trucs, des mecs qui font des trucs complètement fous dans les vieux films en noir et blanc sans parole.
Oui, des hommes trapus, pleins de muscles. Bah, ouais, regardez Nicolas. Voilà, vous savez ce que c'est qu'un déménageur. Voilà.
Et alors, naturellement, vous savez que les vieux films baissent, ça va à toute vitesse. Et il y a cette fameuse légende, vous savez, du déménageur avec un piano. Est-ce que vous avez déjà déménager un piano, Nicolas?
Oui, ça m'arrive souvent, peut-être 2 à 3 par mois à peu près.
C'est vrai?
Oui.
Tout le monde a un piano alors?
C'est régulier, ben, pour vous dire, le 19, il me semble, je vais en débarrasser un. Donc alors... c'est quelque chose que pas mal de gens a, surtout du côté de Rennes. On est dans une ville où les gens sont plutôt sophistiqués, on va dire. Et puis
c'est un petit peu de sous, allez-y, on est sur Canal B, on peut le dire.
Il vote à gauche, il vote Macron voire socialiste.
Et puis grosso modo, bah il y a ceux qui récupèrent les pianos de famille et donc qui s'en débarrassent, comme là ça va être le cas. Et puis il y a tout simplement ceux qui en ont un dans la famille, que ce soit pour les cours, les enfants qui vont au conservatoire, ce genre de choses. Et donc c'est assez souvent ça, du piano qui est utilisé pour les cours des enfants, en fait.
Ah. Et une petite question personnelle, comment vous êtes tombé dans le déménagement? C'est une vocation, c'est une opportunité?
En gros, quand j'étais étudiant, même depuis enfant, je me suis toujours posé la question, mais qu'est-ce que je vais faire dans ma vie? Parce que tout le monde me tannait un peu sur ça, en fait, à l'école, la famille, les amis, tout ça. Et qu'est-ce qu'on va faire dans ma vie? Et puis, ben, je trouvais ça un peu injuste que tout le monde sache quoi faire. Il y en avait qui disaient, oui, je vais être cuisinier, couvreur, ce genre de choses. Des métiers, des fois, un peu pourris, mais bon, chacun ses goûts, hein, il y en a pour tout le monde. Et puis, ben moi je savais pas du tout ce que je voulais faire. Et puis on va dire qu'avec les jobs étudiants, en été, il m'est arrivé de faire de la livraison de colis. Et donc je trouvais ça plutôt sympa.
Vous balader tout ça,
voilà, de se
des
balader,
gens.
De pas avoir un patron sur son dos, et puis de rencontrer différents clients et surtout différents paysages. C'est le côté bureau et enfermé qui me plaisait pas trop, en fait. Même si on va dire que quand on est dans les métiers manuels comme ça, et qu'on connaît pas mal de monde qui font des métiers similaires, et ben pas mal de ces gens-là critiquent les métiers de bureau. Et donc je trouve qu'il faut quand même avoir pas mal de courage pour faire un métier de bureau où on reste souvent assis et faire de la paperasse
avec des vieux cons qui vous détestent et que vous
détestez. Oui, voilà. Mais qu'il faut faire la bise le matin au serrer
votre quelle saloperie. Peut-être lui mettre une crotte de chien dans son casier, peut-être.
Alors, ah donc justement,
est-ce qu'il y a un petit peu, attendez, je reviens sur votre métier de déménageur.
Oui,
est-ce qu'il y a aussi un petit côté chineur, parce que vous faites aussi du débarras?
Oui.
Et moi qui suis un peu chineur, je fais pas dans l'objet, je fais dans le bouquin et dans l'image, mais je sais que j'ai des amis, j'ai des amis antiquaires, etc., brocanteurs.
Enfin, ce qu'on appelle les voleurs.
Oh.
Enfin, on les appelle comme ça.
Les grands mots tout de suite.
Et donc du coup, les grands mots tout de suite, voilà. Et donc du coup, est-ce qu'il y a ce petit côté chineur qui vous plaît dans le métier?
Oui, alors que ce soit dans le déménagement, une fois qu'on a fini un déménagement, il y a pas mal de clients qui nous demandent quoi faire de certains éléments, or soit qui sont tombés en panne ou qui disent bon bah voilà, on a une cave qui où il y a eu un dégât des eaux, on aimerait bien la vider, est-ce que vous faites ça? Parce que le déménagement et le débarras, et ben finalement à l'heure d'aujourd'hui, et ben c'est pas étroitement lié. Et donc ben je me suis dit, j'ai un camion, j'ai des bras, les deux sont quasiment la même chose, bah pourquoi pas
c'est
le
proposer. C'est la première fois que je vois ça d'ailleurs, déménagement et débarras, je vois pas ça d'habitude, pourquoi, c'est ou déménagement ou débarras.
Vu qu'on peut le faire, ça revient quasiment au même de débarrasser que de chose. Déménager des clients. Et donc ben pour, autant proposer ça, ça dépanne les gens, ça les décharge de choses emmerdantes, on va dire. Et donc
Je suis une vieille mamie, j'ai une cave qui est pleine de bourriers, je vais pas aller à la déchetterie.
Voilà. Et donc pour revenir avant de revenir au côté chinage, et ben on s'est tout simplement dit que c'était bien quand même de proposer des services qui rendent vraiment service. Voilà, qu'on n'est pas forcément là pour prendre du fric. Que si les gens ont besoin de vraiment d'un coup de main, ils disent j'ai mon frigo qui est en panne, je sais pas quoi en faire. Bah écoutez, on vous l'emmène si vous voulez. La déchetterie, elle est juste à côté de chez nous. Ça nous fait un peu de frais en déchetterie. On vous rajoute ça à la facture et puis voilà. Mmh. Et donc ça passe parce que les clients, ça les débarrasse. Ils sont embarrassés. Et puis à savoir que le déménagement, c'est un des trois plus grands stress dans une vie. C'est-à-dire que le plus grand stress, c'est un divorce. Ou alors on peut dire le mariage.
Mutation, pas forcément un choix.
Et puis le deuxième plus grand stress, c'est le travail. Et puis le troisième plus gros stress, c'est le déménagement. Et donc si on est là à dire on va pas vous débarrasser votre frigo ou ça, c'est des babioles quoi pour nous. Donc ça nous prend 5 minutes à mettre dans le camion, 5 minutes à vider la déchette. C'est rapide.
Puis il y a le côté aussi éco-responsable parce que du coup on est vraiment en train de tout trier après pour faire en sorte parce que il y a toujours les jouets des enfants avec les piles dedans, il y a ce genre de choses, les papiers, tout ce qui va être
plastiques, les bouteilles.
On est vraiment en train d'après tout bien retrier et c'est vrai que forcément nous on aime bien aussi côté fouille Chine, on est du genre à faire des vides greniers les week-ends, on aime bien ça. Et puis c'est vrai que j'ai aussi une formation d'histoire de l'art. Donc,
ça lie aussi
tout ça.
Voilà, on fera une petite affaire. Justement, avant qu'on s'écoute un petit disque, avant que Roger déstructure votre réponse, vous expliquez pourquoi
aujourd'hui on déstructure.
Pourquoi le déménagement
pourquoi le déménagement?
Oui, pourquoi on n'est pas arrivé jusqu'au bout de votre réponse.
Voilà. Et donc, en gros, je disais qu'à un moment donné, quand j'étais étudiant, je faisais de la livraison de colis en tête. Pour gagner ce qu'il fallait. Et je me suis dit, vu que je faisais la livraison de colis, j'avais le camion de l'entreprise à disposition, donc ça arrivait que certains potes me demandent de leur filer un petit coup de main avec le camion de l'entreprise. Et il s'est avéré que de fil en aiguille, pas mal de personnes faisaient de la demande que ce soit en coup de main. Donc j'en suis arrivé à m'inscrire sur un site internet dont je vois la page sur votre écran.
Collaboratif
entre particuliers. Et donc je me suis dit, je vais voir à peu près à proposer un coup de main. Et puis de toute façon j'ai du temps libre, donc tant qu'à faire, si ça peut se compléter.
En fait c'était un plus à l'origine le déménagement.
C'était un plus et puis finalement j'ai pu voir qu'il y avait pas mal de demandes où les clients se plaignaient vachement de la qualité des déménages de grosses entreprises de déménagement. Et puis après c'est simple à comprendre. Le patron est pas forcément sur le terrain. Les grosses boîtes de déménagement, les patrons sont dans les bureaux. Donc forcément, ils sont pas là à veiller au grain sur les employés. Et donc il y en a pour qui d'avoir un métier, c'est juste pour gagner sa vie, sa croûte quoi. On fait pas forcément un métier par passion. Et donc je me suis dit les déménagements c'est pas mal et tout ça. Et puis ça permet justement, j'adore chiner, donc les débarras ça me permet vraiment
de satisfaire. J'avais remarqué le petit côté chine. Quand j'ai vu débarras, j'avais pas vu avant de préparer l'émission, mais j'étais pas tombé sur ce truc-là. Et j'ai dit, tiens. On s'écoute un petit
peu. Non, on peut laisser finir. Alors le déménagement.
Donc j'en ai pour deux petites
minutes. Oui, bien sûr, vous les avez.
Avant de lancer 9h-5, on a encore une heure, si vous voulez.
Et donc, grosso modo, dans ce qui revenait souvent au niveau des critiques des clients, qu'on aidait, c'était que, bien souvent, les déménagements étaient trop chers. que il y avait pas souvent de il rendait pas souvent service à proprement dit, il dépannait pas on va dire, et puis souvent c'était comment dire des pénalités qui tombaient comme ça sans trop savoir, c'est-à-dire les gens payaient plutôt cher sans trop savoir pourquoi, il y avait pas de transparence. Je me suis autant balancer du service, on va pas dire low cost, mais de segmenter tous les services, de pas proposer du forfait mais de proposer du à la carte, de proposer du déménagement participatif où les clients peuvent participer eux-mêmes dans le déménagement pour remplacer des déménageurs, c'est-à-dire que
ça vous aide à porter.
Voilà, ça fait économiser de l'argent, ça fait baisser la facture parce que ça fait des déménageurs en moins à mettre sur la prestation
sur le chantier. Et si il y a une mamie de 80 ans qui se propose à aider, justement ça va plutôt être un boulet.
Bon.
Si vous posez mamie à chaque fois sur le piano, ça va être chiant.
C'est pas arrivé ce genre de cas. C'est déjà arrivé d'avoir des clients, par exemple des dames qui veulent aider pour bien faire. Donc on leur propose gentiment de porter des cartons pas trop lourds, des sacs de textile, pendant que nous, forcément, quand je fais un devis, j'ai la liste des éléments qui sont à déménager. Donc la personne elle me dit est-ce que un seul déménageur ça peut le faire? Je dis est-ce que vous sentez capable de porter le frigo américain? Ah ben non, c'est vrai. Est-ce que votre mari en est capable? Ah ben non, il y a des problèmes de dos. Dans ce cas-là, vaut mieux qu'on vienne à deux. Donc, s'il y a un piano, vaut mieux qu'on vienne à trois. Comme ça, ça sécurise le truc. S'il y a beaucoup d'affaires, on va venir à trois. Comme ça, ce sera plus rapide. Et donc, ça va vous coûter moins cher que si on venait à deux parce que ça mettrait plus de temps. Et donc, forcément, là, on est vraiment sur du à la carte. Facturation à l'heure, donc avec des prix qui sont clairs, c'est-à-dire il y a trois prix différents, un prix pour la mise à dispo des déménageurs, un prix d'un déménageur avec un camion et un prix sur le kilomètre dès lors qu'on dépasse les 100 premiers kilomètres offerts. Il n'y a pas de frais d'assurance, on les comprend nous de notre côté. Si le client il veut augmenter la prestation de son assurance, on voit ça avec l'assureur, il y aura forcément un surcoût à payer, mais du fait que nous on paye une assurance, c'est obligatoire, que l'entreprise a le travail ou non, pourquoi faire payer au client? On l'inclut dans le prix de la tarification à l'heure, et puis c'est beaucoup plus clair.
Vous me donnez envie de déménager, dis donc.
Mais presque, mais moi j'ai pas vraiment envie.
On s'écoute.
Le merdier que j'ai dans mes caves.
Et c'est vrai qu'il y a un côté un peu traumatisant hein, quand on déménage quelque part, même pour des bonnes causes. Je me marie, etc.
Un incendie vaut trois déménagements, c'est-à-dire qu'on les met un peu sur le même plan.
Allez, on s'écoute un petit disque, j'ai plein de questions encore. Shouldn't be out here on the street alone. Tired and it's getting late. And you keep on lying on the telephone. And he says, wait a minute, don't hang up. I never thought I'd say this to anyone. I think I'm gonna pray for you. 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 You wake up in an ice cold. We'll be right back.
J'en profite en même temps que Jean-Loup est parti faire caca pour comment.
Je suis rapide dans ce cas-là.
Ah, vous êtes rapide d'ailleurs. J'ai jamais dit le contraire. Pour rappeler pour ceux qui prendraient l'antenne en cours, puisqu'il n'est que 21h, mon bon Jean-Loup.
Si on est
mercredi.
Nous
sommes en compagnie de Nicolas et Jennifer. Ci-devant représentant de la société des ménages, moi. Nicolas. Déménageur, on aura, c'est vrai, les auditeurs n'ont pas l'image, mais Jennifer, en termes de, on va dire, de costaud, et Jennifer, qui, elle, s'est spécialisée dans les ateliers de déconstruction et qui a trouvé justement un lien avec l'activité de Nicolas par le biais de cet atelier de déconstruction, parce que vous êtes thérapeute, c'est ça?
Ah, justement, c'est quoi votre parcours personnel?
Alors, du coup, moi, je suis thérapeute holistique, donc.
Alors, holistique, j'avais cru entendre quelque chose après thérapeute. Holistique. Et holistique, ça veut dire quoi?
Holistique, ça veut dire que c'est une thérapie globale, en fait, parce que du coup, ça prend en compte, donc, le psychique, mais aussi, du coup, le physique, parce que je fais du soin énergétique aussi. Donc, je fais de la sophrologie, je fais, différentes petites choses comme ça qui sont toutes liées à l'accompagnement dans le développement personnel. Donc du coup dans la société là je vais être intervenante pour les ateliers de défouloir pour être intervenante en gestion du stress directement. Avant ça j'ai c'est vrai que j'ai un parcours un peu atypique parce que du coup j'ai une formation d'histoire de l'art comme on en parlait tout
à
l'heure.
Oui oui, donc
là qui n'a rien à voir par rapport à ça mais du coup qui fait partie de ce que j'aime et de mes passions. Donc aussi forcément d'où le lien avec tout ce qui va être les débarras et du coup l'activité aussi de Nicolas. Et par la suite, j'ai fait une formation de naturopathie. Donc je sais pas si vous connaissez un petit peu.
C'est des naturistes.
C'est pas tout à fait ça. Non.
Ça c'est des naturologistes.
Ah, des naturologistes ou des nudistes là.
Ouais, du coup, la naturopathie, c'est différent. C'est un généraliste de tout ce qui va être médecine alternative, en fait. Donc, il y a entre autres la sophrologie dedans. Il va y avoir beaucoup d'alimentation, beaucoup de gestion du stress aussi. Il y a plein de choses là-dedans. Ça englobe énormément de choses. Donc formation de naturopathie, formation d'hypnothérapie. Enfin, beaucoup de petites formations comme ça qui sont.
Vous êtes hypnotiseuse.
Aussi entre autres.
Ouh là, j'avais pas de questions à vous poser par rapport à ça.
Mais vraiment, c'est vraiment une partie que je développe très peu parce que c'est vraiment quelque chose que j'ai pas non plus assez approfondi pour aller plus loin. Mais c'est quelque chose qui me sert dans mes ateliers de sophrologie en fait, parce que c'est vrai que c'est très lié.
La sophrologie, ouais, je vais peut-être un peu péjoratif, c'est un peu la confiance en soi, ce qu'on appelait pas avant la méthode Coué quelque
Alors,
part.
Non, la sophrologie en fait c'est une méthode de méditation guidée, de faire en sorte de réussir à gérer du coup ses émotions, ses pensées en fait pour en faire quelque chose de créateur. Donc c'est une manière juste de guider son esprit en fait la sophrologie. Donc le sophrologue vous aide en vous indiquant des choses à visualiser, à ressentir donc pour par exemple modifier Je ne sais pas si vous avez une difficulté avec quelque chose en particulier dans votre vie ou une peur, par exemple, aussi. Ou,
Roger, voilà. Il a peur de la mort.
Non, c'est pas vrai.
Il peut y avoir différents jeux.
C'est quoi cette déstructuration à la con? On entendait Jennifer qui nous expliquait ce que c'était la sophrologie, qui voilà, vous cassez.
Non, mais ça peut, tout à fait. Vous pouvez le détendre. Il peut y avoir ce genre de choses, par exemple, parce que ça peut être, voilà, des phobies.
Et moi, j'étais en train de me dire que Jean-Loup, l'ostéopathie pour lui, c'est complètement,
science-fiction.
Donc, du coup, naturopathie, tout ça, il doit rien comprendre.
Bah, c'est encore plus.
Mais c'est vrai que.
Si en plus, après, je pars sur les soins énergétiques et tout ça, là, on va aller encore plus loin.
C'est vrai, pour être honnête avec vous, je suis assez terre à terre, moi. Un bon cachet d'aspirine, ça...
Ou les antibiotiques.
Peut-être que j'ai tort.
Ce que je peux vous dire, du coup, justement, ça c'est assez intéressant, c'est qu'en naturopathie, ce qu'on essaye de faire comprendre aux gens, c'est que c'est toujours mieux de prévenir que de guérir, déjà. Que souvent, quand on va voir le médecin, on va avoir une solution, un cachet pour l'effet d'une maladie, par exemple.
Pas pour la cause.
Pas pour la cause. Donc, justement, c'est ça qui est intéressant dans la naturopathie, dans la méthode holistique, en fait. C'est, voilà, tout ce qui va être préventif et tout ce qui va être, voilà, savoir gérer avant que le mal arrive, déjà.
Donc, vous êtes favorable à l'homéopathie, je suppose.
Bah, ça, c'est après un choix aussi, on va dire, personnel, mais c'est vrai que c'est une méthode qui peut être utilisée, en effet, par rapport à cette méthode holistique-là.
Ouais. Et est-ce que ça marche? Désolé, je vais sembler un peu provocateur. Est-ce que ça marche ou est-ce qu'il y a un côté un peu d'autosuggestion qui fait que ça marche?
Alors,
vous savez, le fameux effet placebo
qui
est prouvé scientifiquement.
Par rapport à ça, je peux vous donner un exemple parce que du coup, je fais, alors un peu moins maintenant, mais je faisais partie d'une association, d'une association de protection féline. Donc, quelque chose qui n'a rien à voir non plus. Mais j'étais famille d'accueil avec
c'est pas fait l'impossible.
Oui, voilà.
Oui, je connais. On les a accueillis il y a quelques années.
C'est vrai. Bah, du coup,
l'année dernière.
Voilà. J'ai fait partie de cette dernière.
Laissez-la parler. Mais laissez-la parler, Roger.
Alors. Je crois avoir entendu justement le replay de cette émission-là. Mais oui, du coup, j'ai fait partie de cette association-là. Un petit peu moins ces temps-ci parce que moins de temps. Mais en effet, donc, j'ai eu des chats en famille d'accueil. Et on a eu le cas de traiter des chats. Donc, il y avait quelques petits soucis par l'homéopathie.
Donc,
voilà. Et ça marche donc, sur les placebo, chats. Donc, l'effet placebo sur un chat, on va dire, ça va être compliqué
d'accord. Ouais.
Donc, en effet,
est-ce qu'il y a le fait que les pastilles d'homéopathie sont toujours quand même plus agréables que les cachets de 20 km de 20 kg qui donnent aux chats?
Du coup, il va pas y avoir les mêmes molécules dedans, donc c'est vrai que c'est assez intéressant quand même.
Ouais. Mais moi j'aimerais qu'on en revienne quand même, on s'est un petit
j'ai
peu
pas
éloigné.
Fini, Roger, j'ai pas fini.
Vous finirez demain.
Non, regardez-moi.
J'aimerais bien qu'on revienne quand même sur le lien que vous avez pu établir avec le travail de Nicolas, parce que c'est quand même pour ça avant tout que vous êtes là.
Tout à fait.
Alors, en quoi, effectivement, comment vous avez pu, rebondir sur l'activité de Nicolas pour pouvoir y trouver matière à études et travail et puis à service aussi, quelque part?
Alors, à la base, c'est quand même une idée de Nicolas, parce que du coup, il avait trouvé ce projet, enfin, ce concept-là, qui existait déjà au Japon ou dans l'Amérique du Nord. Il y a des choses déjà qui se font vraiment dans ce domaine-là ailleurs. Et en France, c'est quelque chose qui se faisait pas vraiment. Donc, on avait déjà vu des reportages, on avait déjà eu des petites choses comme ça qui nous avaient donné la puce à l'oreille. Et voilà, Nicolas était très intéressé par ça. Il disait ça, c'est vraiment quelque chose qui pourrait être vraiment intéressant. Et on n'avait pas encore fait le lien. Et on s'est dit, après, d'un coup, il y a eu un déclic. Et on s'est dit, mais c'est vrai que c'est tout à fait adapté, finalement, à la situation, à ce qu'on fait tous les deux. Chacun pouvant y mettre son domaine d'expertise, c'était vraiment finalement parfait, ça collait très bien.
C'est-à-dire que du coup, de par son activité ou de par votre activité, Nicolas, il vous arrive d'avoir la vieille soupière ébréchée de la grand-mère, un vieux frigo, une vieille télé hors d'âge, etc. Vous allez les entreposer dans un local. Vous allez, par exemple, inviter une personne à venir déstructurer, Jean-Loup. Ça serait peut-être bien qu'il aille faire un petit
casser,
atelier
de détruire, exploser dans ta gueule.
De déstructuration, mais ce n'est pas un simple défouloir, hein, comme parce que c'est vrai que l'article de Bikini est bien fait, cependant, mais en même temps, il pourrait laisser penser que tiens, allez, hop, crac crac, on va rentrer dans une salle, on va tout péter. Je vous dois combien? Au revoir, merci. Pouf, après une bonne suée, Jean orange bleu, mais déstructuration. Non, c'est pas ça.
Alors du coup, ça peut être un petit peu ça. Il y a le côté ludique, c'est sûr, mais c'est vrai qu'il y a aussi le côté thérapeutique. Il y a le côté exutoire, voilà, c'est ça. Le côté toute cette pression qu'on accumule, toute cette rage, cette colère qu'on peut avoir, les non-dits, tout ce genre de choses qui justement sert, enfin cet atelier sert justement aussi à évacuer tout ça. Mais il y a aussi en effet ce côté ludique là, ce côté voilà, ce genre de choses qui ne sont pas permises le reste du temps, de pouvoir voilà se défouler et puis voilà casser des choses. Mais en effet, il va y avoir le projet de Rage Room qu'on va faire. Donc le côté tout détruire, ça va être possible. On va reconstruire une pièce, par exemple justement le salon de la belle-mère, le bureau là où on travaille, ce genre de choses. On va reconstruire des pièces et donc là, la personne aura entre guillemets carte blanche et ce sera tout cassé. Et voilà.
Il y a un truc, comment dirais-je, je suis persuadé moi qu'il y a des gens qui vont avoir des surprises. C'est-à-dire que vous allez leur donner quoi pour casser ?
Alors il va y avoir différentes choses.
Ouais, alors il y a des masses, batte de baseball, club de golf. Barre de métal, certainement pied de biche. En fait, c'est en fonction des arrivages, parce que tout ça, on est dans un esprit éco-responsable. Donc tout ça, ça vient des débats. Ce sont des éléments qui sont censés être mis en déchetterie, tant au niveau des éléments qui vont être cassés, que ce soit la vaisselle, les meubles électroménagers, donc qui vont servir à la reconstitution tant des rage rooms, ou qui vont également servir dans les ateliers où les clients jetteront un peu, imaginez un peu comme aux États-Unis quand on arrive dans ce genre de salle où on prend un flingue et on tire sur des cibles à une certaine distance, et ben là ce sera un peu la même chose, mais vous allez balancer de la vaisselle contre des murs. Et donc
Pas de cible, par exemple la belle-mère, je sais pas, ou le beau-frère.
On peut noter justement
des
choses sur les assiettes, par exemple. On peut imaginer noter ce qui nous oppresse, et ça c'est possible aussi. Ah,
ce que j'ai du mal à comprendre, est-ce que c'est de nature festive ou est-ce que c'est de nature thérapeutique
Alors, à la base, c'est vraiment quand même quelque chose qui est ludique. On va faire en sorte que ce soit quelque chose qui soit agréable à faire.
Sans forcément avoir des choses à régler, on va dire. Si vous avez juste envie de casser de la vaisselle, du meuble,
péter les trucs,
juste histoire de voir ce que ça fait, ou juste pour le fun, comme certains viennent faire du paintball quelque part.
Double visage. Oui. Après, de toute façon,
ça porte nom, le fait de péter les trucs.
Ah, nous, on appelle ça les déconstructions. Donc
c'est
voilà.
C'est à la mode. La déconstruction est à la mode, mon bon Tom. Tom, on n'est pas dans le vent.
On est en plein dedans.
On est en plein dans la déconstruction chez nous aussi. Ça tombe très bien.
Ce qui est assez intéressant, c'est que du coup, après la déconstruction, on peut faire une reconstruction. Et c'est ça qui est assez intéressant, c'est que justement, on peut proposer des ateliers.
C'est là où t'interviens le plus.
On peut proposer des ateliers de sophrologie, de mosaïque, de peinture, qui vont nous permettre justement de partir sur un aspect beaucoup plus thérapeutique. Et donc voilà, justement, après avoir déchargé cette colère-là, on peut justement se reposer, recalmer ses ardeurs et voilà, aller sur des activités.
Et essayer de fabriquer des œuvres d'art à partir de la destruction.
Voilà, à partir de tous les éléments qui ont été cassés, que ce soit, un peu comme ce que les enfants peuvent faire, c'est-à-dire vous allez faire, soit une peinture avec des éléments que nous, on aura récupérés en débarras, de la mosaïque avec les éléments que vous venez de casser, de la construction. Après, faut laisser libre cours à son esprit créatif, parce que c'est là où justement plus vous serez concentré, plus vous allez canaliser justement cette rage que vous avez exprimée lors des déconstructions. Parce que ce qui est bien, c'est que surtout si vous venez pour démolir des trucs, ce qui est bien, c'est de passer faire un tour également dans les ateliers de reconstruction, parce que si vous rentrez après votre travail et que vous pétez tout sur l'élan, vous êtes venu en rage room avec représentation d'un bureau, avec un ordinateur, des micros, parce que vous en avez ras la casquette de travailler à la radio, et là vous arrivez, vous nous avez piqué de masse, on l'a pas vu, et vous démolissez tout.
Mais ça rappelle une émission de télé dont je regarde trop la télé, qui s'appelle Gérard qui est chargé de régler entre un ado difficile et les parents, enfin des problèmes de communication. Systématiquement une séquence où chacun vide son sac, soit en pétant des verres, soit en pétant des briques, etc.
C'est des méthodes qui ont fait leur preuve.
C'est un peu dans cet esprit-là
quand vous voyez qu'un enfant est frustré, alors il faut bien partir du principe que les enfants sont pas vraiment
construits émotionnellement. Donc ils sont vraiment sur l'instinct, sur le primitif. Donc quand vous voyez qu'un enfant est frustré, ne serait-ce que quand il joue à la console, eh ben il fait quoi la plupart du temps? Il prend sa console, il l'éclate par terre. Ouais. Il s'énerve, il casse tout, il crie. Et ben les enfants sont le meilleur modèle pour nous montrer comment mieux exprimer, que ce soit notre joie, notre colère, ce genre de choses, parce que ils sont pas dans la retenue en fait. Et donc c'est là où on voit que en effet quand on est en colère, eh ben vaut mieux déverser que d'accumuler, parce que à force d'accumuler, eh ben un jour ça pète et ça pète pas au bon moment et au meilleur endroit et ça fait des dommages collatéraux des fois.
Mmh. On s'écoute un petit disque.
Choice to land for
Voilà, eh bien, on est toujours en compagnie de Nicolas Jennifer et vous feriez bien de nous rejoindre parce que vous savez comment fait l'horloge. Là, il n'est que 21h20, elle va glisser doucement jusqu'à 21h30 et après elle va remonter à toute vitesse.
Comme un jeune bourré d'hormones.
Et c'est assez curieux parce que chez nous, l'horloge défie les lois de la pesanteur et la grande aiguille remonte plus vite qu'elle ne descend. Bref, je voulais vous parler de la rage room, là. Vous savez, là, on va pouvoir péter des trucs. Est-ce qu'on pourrait commander son scénario?
Tout à fait, ça va être possible du coup. Par contre, il faudra forcément un petit délai parce que justement, comme on disait, voilà, c'est en fonction des arrivages. Nous, on veut pas partir dans un principe de consommation. On veut vraiment que ce soit éco-responsable. Donc, ce sera que des choses qui sont de toute façon destinées à la destruction. Donc, ça dépendra des arrivages. Mais
ça va être compliqué.
Possible.
Par exemple, si moi je suis prof, que j'ai envie que vous me reconstituiez une mini salle de classe et que je pète les bureaux des élèves.
Alors, c'est possible. Forcément, ce sera.
Putain, les élèves.
Ce sera forcément à échelle réduite. Mais voilà, on va faire en sorte de faire quelque chose le plus proche possible. Ce sera pas exactement la même chose, mais ce sera le plus proche possible pour pouvoir vous situer. Mais ce sera en effet quelque chose envisageable.
Il y a quand même un truc, moi, qui me. Alors, vous voyez comment je suis gaulé. J'ai bien peur, parfois, que je sois déçu. C'est-à-dire, que vous allez me confier un espèce d'objet contondant.
Vous allez vous blesser.
Et je vais vouloir le péter. Pouf, la batte va glisser sur la télé. Pouf, je vais me casser la goule. Est-ce que je suis protégé? Je pense qu'il y a des gens qui vont quand même être déçus. Ça, les objets se pètent pas si facilement que ça, finalement.
On va déjà faire une sélection. Ouais. Il y aura une sélection. Et puis, vous avez vu comment moi je suis faite. Je suis pas non plus du genre très, très costaud. Et pourtant, voilà, la masse, je la soulève. On va faire aussi en sorte. Voilà, de sélectionner en fonction des profils, en fonction voilà des personnes.
Des gabarits, parce
voilà,
que comment
il va falloir
me mettre
gabarit massif. Moi, je serais gabarit Nicolas.
On peut le faire au marteau au lieu de la masse, par exemple. Ça peut être envisageable pour vraiment des tout petits gabarits. Mais non, en effet, il va y avoir des outils aussi adaptés et puis des meubles adaptés, des choses adaptées. Voilà.
Ah, parce que sinon, à chaque fois, on se pète des tables sur la gueule. Mais là, c'est pas tout à fait la même chose. C'est des vraies tables.
Oui, on et donne... Voilà. Un coup de poing, bah, on se relève, les cheveux à peine dépeignés, après 10 minutes de baston. Et tout ça, ça a un coût, forcément.
En effet.
Donc j'arrive, coup, hop, je peux casser, donc
il va y avoir,
j'organise.
Voilà, il y a un coût, mais justement actuellement sur notre page Facebook, on a fait un événement pour gagner les premières places, parce que du coup, on n'a pas encore mis en place, on va dire concrètement, ces ateliers. On a le premier pilote qui va se mettre en place le 27.
La bêta test.
Voilà. Le 27 mai.
Le 27 mai, tout à fait. Donc voilà. Ça se rapproche et il y a encore la possibilité d'y participer. Donc par le biais d'un événement Facebook et justement, donc il y a eu un tirage au sort qui a déjà eu lieu, mais pour deux dernières places, il y a encore la possibilité de les gagner. En faisant une évaluation du prix de ce que vous pensez que sera le prix, et pour les personnes qui seront le plus proches du prix, du coup vous aurez votre chance, votre place sur cet atelier là. Donc vous ne saurez pas plus.
Voilà,
mais voilà,
si
vous avez la possibilité.
Si on allait dire là maintenant à l'antenne et que certaines personnes par curiosité vont sur la page Facebook et qu'ils voient qu'il y a justement l'événement et qu'il y a des places à gagner, et on se dit ah mais je viens d'avoir les réponses, mais je vais les mettre.
Ouais, vous les direz en antenne là, on va s'arranger.
Non, vous n'avez pas le droit.
Donc vous le saurez peut-être.
J'ai besoin de me défouler. Voilà.
Donc c'est bien sur la page Facebook de Déménage moi qu'il faut aller.
Tout à fait.
Voilà. Et donc par la suite une page Facebook sera dédiée spécialement pour les déconstructions qui s'appellera certainement Défoule-moi ou Démolis-moi.
Par contre, vous n'avez pas répondu à ma question, donc je suis intéressé combien ça va me coûter.
Justement, on peut pas vous le dire tout de suite. Si on vous le dit maintenant, comment on fait?
On répond au jeu, espèce de ballot.
Bah oui, j'essaye des fois que ça marche.
Sans déconner.
On va pas laisser glisser l'information comme ça.
Et là, vous allez dissocier le côté festif, le côté thérapeutique.
Alors, en fait, il y a 4 ateliers différents. Il va y avoir l'atelier classique, on va dire, de déconstruction. Donc, avec l'atelier d'assiettes principalement ou de vaisselle à jeter sur le mur.
Donc,
c'est un grand classique, ça, l'assiette pétée.
Voilà, l'assiette, les verres.
Vous choisissez ce que vous voulez, c'est-à-dire que il y aura tout un lot de fournitures à péter.
Vous prenez
il y aura
ce
un certain nombre de
plus.
Pièces à casser par personne, et donc vous choisissez vous pouvez prendre la soupière, une cruche, un vase, et on essaiera de faire en sorte Après, c'est en fonction des arrivages, des débats, parce que il pourrait y avoir aussi des petits sujets, comme par exemple, je sais pas, des, comment ça s'appelle, ces babioles qu'on met dans les vitrines, là, qui servent à rien.
Des vierges en plastique, non, pour, là,
en plastique, ça a pas très bien cassé.
Là, les, mais, ces babioles. Les bibelots, là.
Les voilà, bibelots, voilà. Les
petits bibelots.
Exactement.
Si vous savez, il y aura un petit peu de tout.
Ce genre de choses que...
Essayez d'avoir quelques petits objets un peu fun, déjà, pour changer aussi, que ce soit pas que de l'assiette, mais voilà, avoir différentes petites choses.
Contrairement aux concurrents.
Ça, c'est le premier, la première, la première chose. On va avoir la Rajoum, dont on a parlé rapidement. Donc là, à peu près une dizaine d'articles en reconstitution d'une pièce. Il va y avoir également donc l'option de meubles gros électroménagers ou meubles, du coup. Donc c'est une pièce par personne, du coup, où on attaque vraiment à la masse, où on attaque vraiment jusqu'à ce qu'il soit à plat. Bon, l'électroménager sera un petit peu plus dur à plat, mais bon, vous voyez le principe. Et donc le quatrième atelier, c'est justement les reconstructions. Donc les différentes possibilités en soit sophrologie, soit mosaïque, soit peinture, ce genre de choses.
Voilà. Là où pourra intervenir justement les compétences thérapeutiques de Jennifer.
Et vous avez une phrase révélative par rapport à nos concurrents, c'est-à-dire que
cette idée
existe déjà en fait. Alors,
À Paris à Lyon, ça s'est lancé un peu, donc ils sont pas lancés uniquement sur ce créneau-là. Hein. C'est pas mal sur de l'événementiel.
Tout ce qui est team building, voilà. Surtout.
Tout ce qui est team building, où on vient en groupe, que ce soit pour du paintball, pour tout ce qui peut se faire en groupe.
Mais principalement, du coup, à viser d'entreprise.
Un peu de tout.
En fait.
Donc, forcément, eux, dans leur principe, ils sont pas dans un, esprit éco-responsable ou, pour faire tourner ce genre d'activité.
Voilà,
obligés d'acheter.
Parce que là, justement, je voudrais qu'on revienne là-dessus. Des fois que des gens prendraient l'antenne en cours, parce que il faudrait pas non plus qu'on vous colle l'épithète de l'aboutissement de la société de consommation. Il y a tellement de trucs qu'on fabrique, on peut péter n'importe quoi.
Alors, c'est vraiment l'inverse pour nous.
Gosse gâté, je pète des trucs. Point barre.
Donc c'est vraiment l'idée de donner une dernière vie avant la fin. Justement, ce sera que des choses qui seront ébréchées, ce sera que des choses qui sont qui ont déjà vécu.
Voilà, par exemple du meuble qui a pris l'eau, qui a pris la flotte, le bois a gonflé. Bon, c'est pas récupérable.
Mangé par les mythes,
Donc,
ça aurait fini à la déchetterie dans tous les cas.
C'est ça, exactement.
Et donc pour en revenir justement au fait où vous demandiez si on n'a pas de force, comment ça se passe, parce que on va éviter de mettre du meuble en bois massif qui serait impossible à casser, parce que ça rajouterait de la frustration par-dessus de la frustration qui serait déjà présente. Donc c'est pas cool. Donc forcément, vu que ce sont des meubles qui sont déjà destinés à être cassés, à aller à la benne, et qui sont pas en état de retourner dans le cycle de la consommation, vous devinez forcément que ce sont déjà des meubles fragilisés. Donc on va pas non plus mettre des meubles où on les pousse à peine et qui vont se casser, parce que là c'est pas non plus rigolo. C'est pas marrant.
Donc Roger, lui, ce serait les petits bibelots en fait, et moi ce serait le meuble en chaîne massif mais trafiqué.
Voilà,
de manière que j'ai l'air encore plus fort que je le suis réellement.
Tout à fait. Il y a des possibilités. Il y aura justement le choix des différentes choses qui vous intéresseront le plus. Vous aurez la possibilité de choisir un peu le meuble qui vous plaît.
Et puis, ce qui est bien avec l'électroménager, type frigo, machine à laver, gazinière, ce genre de choses, c'est que même si concrètement il n'y a pas de morceaux qui se cassent vraiment, c'est que ça laisse des empreintes. Et donc, ça peut donner envie de retaper encore plus fort. Et ainsi de suite. Et par exemple, à frigo, je m'y suis essayé avec un de mes anciens collègues qui avait commencé l'aventure du déménagement avec moi lorsque la boîte s'est lancée. Et donc on a eu un frigo, on savait pas trop quoi en faire. Je lui parlais justement de ce futur projet. Donc on avait justement récupéré une masse en débarras. Donc génial. Déjà les gens qui jettent une masse en... Voilà. Bon, c'est pas grave. merci beaucoup au client qui l'a jeté et à l'autre client qui a jeté la deuxième. Et donc on s'est dit c'est cool, on va tester le truc. Donc on a tapé et donc chacun notre tour, hop, un coup. Ah l'autre il a tapé plus fort que moi. Allez, je remets encore plus fort. Ah tu tapes encore plus fort. Allez, je remets encore plus fort. Et là la masse a du mal à
aller plus loin.
Elle reste coincée dans le frigo, et c'est ça qui est marrant en fait. C'est même si on n'a rien à évacuer, finalement il y a une certaine satisfaction à casser ces trucs là.
Rassurez-moi, le frigo vous l'avez désossé avant. Vous parlez de il y a du gaz.
Je préfère en venir tout ce qui touche un peu à l'environnemental. Donc les télés tubes cathodiques et tout ça, on les mettra pas. Alors ce sera que de l'écran plat, les frigos, l'arrière sera pas accessible. Donc nous on va pas y toucher, on va pas les trafiquer parce que on n'a pas la compétence pour démonter ce genre de système là. Et les frigos seront tout simplement, l'arrière sera inaccessible. Donc le client, le démolisseur aura la possibilité de taper sur le dessus, sur les côtés, sur le devant. Et dans l'intérieur, s'il arrive à l'ouvrir en tapant.
Est-ce qu'il pourra emmener son œuvre d'art ? Imaginons qu'il soit véritablement satisfait de son frigo déstructuré. Est-ce qu'il y a moyen de l'emmener ?
Non, mais on pourra, il pourra se faire prendre en photo pour comme un trophée de chasse. Vous voyez, vous avez fait votre safari comme à l'époque, années 30, vous avez certainement connu ça. Vu que je n'ai entendu pas. J'ai cru entendre parler de ces années-là.
À l'époque, on allait avec Roger en Inde pour
on allait chercher le lion.
Voilà, le tigre, bah, le tigre aussi. Son petit trophée. Bon bah, on a battu l'éléphant, bon, on se met dessus, et ben là pareil, on peut poser le pied dessus avec la masse, avec le chronomètre, en combien de temps il a été couché, et puis le démolisseur aura la possibilité de, s'il veut, de, on va dire, de décrire ses ressentiments sur les éléments, que ce soit sur la vaisselle, électroménager, les meubles, parce que tant qu'elle est cassée, ben il a le droit de faire un petit dessin, surtout s'il est
avant,
doué
de la belle-mère ou à mettre un petit peu d'énergie là-dedans.
Ça peut être filmé aussi.
Donc ça, c'est quelque chose qui a à l'étude, voir s'il y a une possibilité de se mettre en lien avec un jeune petit entrepreneur dans la vidéo, afin que ça fasse tourner l'économie de petites entreprises, on va dire. Et comme ça, bon bah, ça pourrait être filmé comme, je sais pas, on pourrait peut-être envisager comme dans certains parcs d'attractions ou la vidéo,
avec un bon son, punk, par exemple, je sais pas, moi, un bon vieux morceau punk et on pète, se faire filmer à péter des trucs.
Avec du libre de droit, bah, forcément, mais ça aurait été sympa de mettre du classique, Ah, il y a tellement de titres que j'aimerais citer. Ça aurait été cool de mettre certains classiques, mais il y a du libre de droit qui est très bien. Et donc, on mettra ça pour créer une certaine ambiance.
Les Valkyries, ça doit être libre de droit, ça.
Je sais pas du tout.
Non, on peut mettre l'hybride de manif, à l'aéroport, et on pourra taper avec des CRS fictifs, on pourra leur balancer.
Faudra appeler sans, des Nantais.
Sans crainte d'être poursuivi par la justice. Avant de se passer un petit disque, une remarque, vous parliez d'écran plat, c'est marrant, regarde. Des écrans plats, il y a quoi, il y a 5, 6, 7 ans, c'était un objet de luxe, et aujourd'hui. Voilà.
On en
trouve la déchetterie, quoi.
C'est démocratisé, bah, c'est un peu comme le MP3, hein. Avant, vous aviez ces MP3 qui faisaient la taille d'un très gros suppositoire. Et ben, maintenant, vous avez ces, voilà, gros aïe, avec l'alarme.
on sent que c'est du vécu, là.
Et donc, ah oui, en prison, quand vous croyez que je faisais rentrer.
Le savon, non?
Allez, donc, on s'écoute un petit disque et on poursuit notre conversation. C'est parti.
Voilà, Jean-Loup est encore parti faire caca. Cet homme-là a de beaucoup de soucis avec son intestin grêle. Et il déteste qu'on parle qu'il fasse caca pendant l'émission. Vous lui dites pas. On est donc toujours en compagnie de Jennifer et Nicolas pour parler de déménage-moi. On ne dira pas combien coûte la séance puisque effectivement il faudra aller sur l'effet de mon Facebook. Vous êtes lavé les mains?
Oui, bien sûr. Bien. Bah, j'ai eu le temps, c'est pour ça que je suis en retard. Là, là. Voilà.
Et donc là, du coup, on ne dira pas combien ça coûte. Mais par contre, moi j'aimerais revenir. Alors, vous ne faites pas que casser tout ce que vous, parce que d'où ça vient tout le matos? Il y a autant de matos au rebut que ça?
Ouais, il y a beaucoup de matos au rebut. Alors nous, on est des débarrasseurs que je qualifierais de non brocanteurs. C'est-à-dire que il y a des débarrasseurs qui sont brocanteurs qui vont venir vous débarrasser des éléments qui vont certainement vous acheter à un prix quelconque pour revendre pour revendre derrière.
Mais bon, voilà. C'est leur boulot, faut bien
qu'ils
bouffent aussi.
Exactement.
Bah, si ça vous débarrasse, ça vous rend service.
Voilà. Et puis nous, on va dire qu'on passe derrière pour retirer. On parle même pas de miettes, hein, pour retirer vraiment tout ce qui part au rebut, à la déchetterie. On va dire que le débarrasseur brocanteur qui est passé par là, ou les qui sont passés par là, qui ont dit aux clients, ah bah ça vaut rien. Vous avez vu dans quel état c'est verrouillé, machin et tout. Et donc, grosso modo, le client nous appelle pour cette fois-ci virer ça à la poubelle.
Alors c'est pas con, parce que si j'ai bien compris, vous faites la double fourchette, puisque vous vous faites payer pour débarrasser la drouille, ce qui est normal, puisque je vais quand même pas faire nettoyer
mon service. Oui.
Et en plus de ça, ce que vous avez récupéré, vous allez faire payer les gens pour le péter.
Voilà. Alors
vous êtes redoutable, les petits Macron. On dirait des petits Macron. Vous voyez pas de mal, non, mais
chineur, receleur, le stockage de tout ça qui prend.
Non, mais c'est tout à fait nouveau comme concept.
Il y a une raison à ça. C'est parce que j'ai tout simplement voulu rester sur mon concept de base de facturation qui reste clair, qui est pas 5 ou 6 prix différents en fonction des catégories de prestations. Donc là, on est sur les mêmes prix que sur des prix de déménagement. Donc, comme je disais tout à l'heure, on est sur des tarifications à l'heure. Et donc, afin d'éviter de faire répercuter les frais de déchetterie dans la facture du client, et qu'on reste sur les mêmes prix, ben on s'est tout simplement dit que c'était la solution qu'on pouvait trouver afin de les absorber et de pas les faire répercuter sur le client. Donc bien sûr, les prix de déchetterie sont pas non plus faramineux, surtout quand on trie correctement comme on le fait. Ils permettent d'à côté de générer du chiffre d'affaires, mais également d'absorber justement... les frais de déchetterie qu'on n'imputera pas au client.
Ah. Et comment il est le marché du déménagement, du débarras et tout, c'est tendu ou quoi? Il y a de la concurrence?
Alors, il y a de la concurrence, mais comme on dit souvent dans le milieu, il y a à manger pour tout le monde. C'est-à-dire que il y a à manger pour tout le monde, mais grosso modo, si il y a 2-3 entreprises qui venaient à se lancer là sur le bassin rennais, vu le nombre de concurrents qui existent actuellement, elle durerait pas. Elle ne resterait pas longtemps parce qu'il n'y aurait pas suffisamment assez de travail pour elle. Ce qui marche pour nous, c'est vraiment le fait de sortir un peu des sentiers battus et de proposer pas du multiservice, mais du service on est sur du déménagement, le débat, comme je disais tout à l'heure, ça s'en rapproche énormément. Nous proposer également du transport, de la livraison de colis ou de la livraison de meubles que vous achetez chez un fabricant.
Mais il y a la vente de fournitures aussi, dont tu
parlé. Donc vous êtes bien diversifié en fait.
Donc il faut.
Et en plus, on est diversifié aussi sur la vente de fournitures.
L'intérêt, c'est vraiment de se diversifier au mieux comme on peut, comme tu disais, vente de fournitures de déménagement, vu que ça s'en rapproche.
Voilà, il y a la vente de fournitures classique et il y a les ventes de fournitures d'occasion qu'on fait, et ça, c'est quelque chose qui se fait pas ailleurs.
J'ai oublié de le
préciser. Vous avez un local où on peut visiter?
Oui. On a un local, mais qui n'est pas à visiter. Malheureusement, c'est pas encore un musée.
Comment ça se passe? Un local où on peut racheter. Est-ce qu'il y a un local où vous revendez des choses que vous avez récupérées?
Non, on fait pas ça du coup.
Non, on fait pas ça. Pas de revente au public, ni même au professionnel. Donc, si
on n'a pas vraiment grand chose de toute façon. Enfin, ouais. Au pire, ça part en association quand vraiment il y a des choses qui sont intéressantes. Mais non, d'accord. Vraiment, on n'a pas
une machine à laver qui serait éventuellement percée dans le fond et fonctionnelle. Bon, bah ça part chez Envie 35 parce que bah il refait un emploi derrière.
On a reçu tout le monde à part vous.
Pas encore.
Là, sur notre table de chasse.
Donc là, l'intérêt, comme vous disiez tout à l'heure, il y a dans le déménagement, il y a du travail comme il faut. Bon, le seul gros concurrent, c'est pas les déménageurs qui sont là historiquement, qui sont là dans toute la France. Ce sont les locations de véhicules parce que les gens se disent tout simplement, on va faire venir des potes, on va payer le pack de bière, on va payer le saucisson, on va payer la pizza et puis les potes vont nous aider et on va payer le camion de location à 50-60 €. Alors après, ceux qui se laissent convaincre, ce sont tout simplement ceux qui ont vécu une mauvaise expérience par des potes qui les ont lâchés et c'est justement là où on intervient. On a beaucoup d'urgence, c'est-à-dire on n'a plus de camion, le magasin n'a plus de stock à nous louer, ou alors l'ami qui devait le prêter n'est pas venu parce qu'il voulait pas se lever.
Puis tout le monde n'a pas forcément non plus envie de conduire un camion de déménagement, qui sont des permis classiques, on n'a pas forcément non plus envie de manier un tel engin. Et puis il y a la caution, il y a ce genre de choses si on l'abîme, voilà. Là aussi, du coup, c'est assez intéressant d'avoir un déménageur.
J'en ai vu démolir des côtés de camion. Bien comme il fallait. Hein. Ouais. Alors là, pour en revenir à ceux qui louent des camions de déménagement, des camions dans les grands magasins, on va dire. Nous, on fait aussi de la mise à disposition de déménageurs. C'est-à-dire, vous n'avez pas d'amis. Eh ben, nous, on peut venir
vous donner leur ami.
Devenez leur ami.
Petite contribution.
Quand je dis vous n'avez pas d'amis, c'est juste. Non,
on va devenir vos amis. Et là, vous leur donnez rendez-vous le lendemain et vous les plantez. Comme des vrais amis.
Alors, quand je dis vous n'avez pas d'amis, c'est dans le cas où généralement vous avez un déménagement, un truc comme ça. Généralement, les amis qui sont en congé ce jour-là, ils ont pas envie de s'embêter à porter du frigo.
C'est pas des amis.
C'est embêtant, quoi. C'est lourd et tout ça.
On
a que deux jours
là.
De congé par semaine, quoi.
Les déménageurs sont vos amis. Voilà, sont vos meilleurs amis. Une petite question aussi par rapport au travail en lui-même. Là, on parle de rallongement de départ à la retraite, etc. Est-ce qu'on peut être déménageur jusqu'à 65 ans, 66 ans, 67 ans?
J'en ai connu qui, à cet âge-là, portent même encore du piano. C'est-à-dire, vous avez de la bouteille. Hein. Vous pouvez pas venir comme ça, vous avez 65 ans, vous pouvez pas venir déposer un CV si vous avez pas jamais fait de déménagement, parce que tout n'est qu'une question d'habitude. Je veux dire, c'est temps à travailler sur les positionnements pour porter du mobilier, et ces positions-là sont pas forcément les mêmes, que ce soit pour un frigo américain, un piano, ou que ce soit des techniques de portage, que ce soit avec des sangles ou de porter avec le corps, parce que c'est tout bête, mais vous posez sur les cuisses pour descendre des escaliers avec une machine à laver, et tout n'est qu'une question d'habitude et de technique. Je veux dire, dans le tout début, je pouvais pas porter une machine à laver tout seul. Maintenant, je peux en porter une tout seul, vous la mettre dans le camion, vous la descendre du camion, vous posez ça sur la roulette, voilà.
Et est-ce qu'il y a un turnover important quand même dans le métier, est-ce que les gens restent longtemps ou ça tourne, parce que on fait ça 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, puis après on en a marre, c'est physique quand même comme boulot.
Ouais, c'est le genre de métier, généralement on le choisit quand même d'une certaine manière par intérêt, parce que même si c'est physique, les personnes qui vont venir dans ce métier-là le savent très bien, et ils se disent forcément que ça va entretenir, on va dire, une certaine forme, même si tout n'est qu'une question d'alimentation et tout ça, mais on va dire une certaine forme physique au lieu d'aller à la salle de sport. Vraiment, quand vous avez 3 étages sans ascenseur, voire même 4 ou 5, ce qui peut arriver, que de l'autre côté vous en avez 200 sans ascenseur, à la fin de la journée, vous êtes trempé comme si vous aviez sauté dans un lac. Donc vraiment c'est il faut de l'endurance, il faut de la force physique, vraiment ça vous fait votre abonnement de sport, comme vous disiez, à l'Orange Bleu. Là vous avez plus besoin de renouveler.
Et là au niveau du votre personnel, vous avez fixé une équipe ou vous êtes souvent en recherche d'un, je sais pas combien vous êtes dans votre entreprise, d'un ou deux salariés supplémentaires.
Là, on est trois, et puis je travaille avec des habitués dès lors qu'il y a besoin de plus. Donc récemment, j'ai investi dans un second camion, donc qui sera dédié principalement pour les petits déménagements et les débarras. Et donc forcément, pour faire tourner ce deuxième camion lorsque le camion principal est déjà en intervention, j'ai embauché mon salarié principal qui s'appelle Guillaume. Donc Guillaume qui travaille avec moi sur les missions principales. Et puis dès lors qu'il y a des missions, on va dire secondaires, où je peux mettre Guillaume à la gestion d'une équipe, je fais tout simplement appel à mes gars habituels avec lesquels je travaille régulièrement depuis à peu près avril de l'année dernière.
C'est-à-dire vous faites appel à une manœuvre ponctuelle. C'est ce qu'on appelle l'ubérisation.
Mais non, ça n'a rien à voir avec l'ubérisation.
Tout simplement, j'essaye d'une part de me créer un réseau de contacts que je fais venir pour de la mission ponctuelle si je ne l'ai pas embauché en CDI ou CDD de 6 ou 6 mois ou 12 mois. Et puis, je leur fais leur contrat. Ils travaillent avec moi. Ils repartent après. Voilà.
D'accord.
Et donc, c'est en fonction de leur disponibilité afin d'éviter justement de les monopoliser. Voilà. Donc, voilà. Forcément, vu que là, le deuxième camion vient d'arriver, les agendas se remplissent au fur et à mesure et petit à petit pour ce deuxième camion. Pour le premier camion, mes agendas sont plutôt bien remplis. Mais il faut que je commence à remplir le deuxième agenda pour commencer à envisager à faire de l'embauche concrète pour ce deuxième camion.
Mais d'accord, ça, c'était avant de passer chez les Grignoux. Vous allez voir demain, votre téléphone va sonner.
Ça va sonner.
Et les clients, dès que ils se disent « Oui, j'ai écouté les Grignoux, c'est 30%, c'est ça que vous avez dit de réduction. »
On n'a pas dit ça, c'était un smiley. On s'écoute un petit disque parce que moi, j'ai encore une dernière question à vous poser aussi, parce que peut-être qu'il y a peut-être un truc qu'on a perdu.
Voilà, c'est parti.
Cause I'm a love man. Ooh, baby, I'm a love man. Love, man.
Voilà, et puis on va terminer cette émission en compagnie de Nicolas et Jennifer, déménageurs de l'impossible, déménage, alors la société c'est...
Déménage-moi.
Il y a un
côté, voilà. Ça me rappelle une chanson, je sais plus, ça va revenir tout à l'heure.
Non,
vous
en rappeliez parce que ça va sûrement être glauque.
Non, c'est bien dit, c'est du second,
moi, j'avais
du troisième
degré.
Moi
j'avais une dernière question par rapport à la Chine. Tout à l'heure vous disiez que vous étiez quand même un peu branché par la Chine. Est-ce qu'il y a, quand vous rentrez dans une cave, la vieille mamie qui dit « Oh, il y a des vieux trucs, il va falloir me débarrasser de ça », vous ouvrez la porte, ça
oui,
sent
des
le
Picasso,
Et voilà, est-ce qu'il y a toujours un petit peu ce frisson, comme quand on va à la pêche, à la marée, qu'on découvre derrière le rideau d'algues une tête de homard? Est-ce que vous avez encore ce frisson-là? Est-ce que vous êtes toujours un petit peu, est-ce que ça vous titille toujours?
Alors, j'ai actuellement, en ce moment, ce frisson-là s'opère plutôt lorsqu'il y a des éventuels clients, futurs clients, qui me disent bon ben j'ai un garage à débarrasser, mon mari a été militaire, il a fait la Seconde Guerre mondiale, son père a fait la première,
du militariat,
et voilà, du militariat, ce genre de choses qui est plutôt bien recherché. Le souci c'est que ben c'est, on va dire, ce sont des que des clients hypothétiques, c'est-à-dire que ces clients là bon ben forcément on est à l'heure d'aujourd'hui dans une conjoncture à ce qui paraît économique où c'est la crise. Bon, peut-être pas pour tout le monde.
Et, on va dire il sort ricanant, là.
Non, mais pas, je dis pas ça pour moi. je parle de ceux qui sont très haut placés, on va dire. Et donc, à l'heure actuelle, les gens font vraiment en sorte de faire appel à des débarrasseurs qui vont leur racheter. Ce qui pourrait avoir de la valeur. C'est-à-dire que là, il y a Internet. Ah bah, j'ai un truc qui me semble un peu intéressant. Après,
les gens ne peuvent pas le savoir.
Ce genre de client, le problème, c'est que c'est très rare parce que d'un côté, soit ils sont partis en maison de retraite parce que ils ont plus la capacité de prendre des décisions par eux-mêmes parce que ils sont trop dans le laisser-aller, on va dire. Ah. Et donc ils ont de la famille qui passe par là et qui disent ah bah ça vaut ça. Donc nous on s'en fiche un peu parce que d'un autre côté, si on nous appelle pour débarrasser que du rebut, c'est notre métier, on est payé pour ça.
Une petite question justement, on vous dit vous allez débarrasser ma cave, vous tombez sur un Picasso à Léonard de Vinci ou sur des lingots d'or, vous devez déclarer ça, il y a une loi ou
alors
quelque chose qui
sur des éléments de grosse valeur comme ça, ça s'appelle tout simplement inventer un trésor, et donc là oui, il y a une loi qui vous oblige à déclarer.
L'État prend 50%, je crois.
C'est ça, 50% pour l'inventeur, 50% pour le propriétaire.
Ça touche.
S'il n'y a plus de propriétaire.
S'il n'y a plus de propriétaire.
Mais sinon, c'est pas le propriétaire.
C'est un propriétaire et un inventeur.
Et il y a un.
C'est en cas de vente.
Parce que, vous vendez, vous vendez un lingot d'or, on va vous demander d'où ça vient. Donc, forcément.
Je connais un camp pas très loin, vous pouvez vendre votre lingot d'or, on s'arrangera.
30%, là.
Pas trop cher, j'imagine.
Il faut sortir vivant.
Donc, c'est codifié, ça. Est-ce qu'il y a une somme à partir de laquelle vous devez déclarer le fait d'être inventeur?
Alors, il doit bien en avoir une. pour l'instant, je me suis pas du tout renseigné parce que ce genre d'événement ne m'est pas encore tombé dessus. Après,
pas encore. Dès demain matin, clac, vous sortez
jamais
les réunions.
Jamais dire jamais.
J'ai un collègue qui fait du débarras, qui m'a raconté que dans sa jeunesse, il avait débarrassé une tapisserie d'une valeur de 500 000 francs, quelque chose comme ça, qui représentait l'équivalent de 6 mois de salaire à deux gars. Donc un an de salaire pour un seul gars. Et donc cette fameuse tapisserie qu'ils ont revendue à un autre brocanteur qui a dû revendre ça le gars me racontait que qu'il était bien dégoûté, mais on peut pas tout connaître, on peut pas tout rafler. Et donc est-ce que là on doit considérer que ça devait être déclaré? J'imagine que ça, que oui, dans tous les cas ça a dû être déclaré parce que le client qui a fait débarrasser ça, il y a un contrat qui indique que quand vous faites appel à un débarrasseur, ce que vous faites débarrasser, vous en dépossédez. C'est-à-dire que vous jetez ça, c'est comme si vous jetiez ça à la rue, à la déchetterie, vous en dépossédez.
Vous signez un contrat avant.
Alors déjà, avant tout, il y a les conditions générales de vente qui sont établies par des collèges de consommateurs et de professionnels. Donc c'est des choses qui sont déjà établies, qui peuvent pas changer. Même en fonction des conditions particulières d'un professionnel à un autre. Et donc dès lors que je vous dis, bah tenez, je vous le donne, débarrassez-moi de
merci bien votre portable, voilà. Oui, je vais bien vous en débarrasser.
Je m'en déleste, donc il vous appartient. Et donc dès lors que vous avez fait appel à moi, et donc les débarrasseurs justement ont fait une liste des éléments qui pourraient avoir de la valeur. Donc on fait une liste, on vous a débarrassé ça. Est-ce que vous êtes d'accord? Je signe, ok, je suis d'accord, je m'en suis débarrassé, ça ne vous appartient plus en fait.
Et petite dernière question parce qu'il va falloir qu'on conclue.
Et donc le fameux Picasso, je pense que vu de ce sous cet angle-là, le fameux Picasso, si le client vous lui avez bien dit qu'il y avait un tableau Picasso
ou un tableau
voilà. Un truc comme ça, un tableau,
il nous reste juste une petite minute, une dernière question. Justement, pour estimer la valeur des biens, comment vous faites? Il y a culture, pendant vous parlez, vous étiez étudiant, il y a un Argus, il y a quelque chose, je sais pas, j'ai une commode Louis XV.
Vous appelez ça une petite question, vous?
une minute, je sais pas comment vous savez que ça coûte.
Il y a un Argus pour les tableaux.
On n'a pas ce genre de débarras qui arrive non plus en règle générale.
Et on n'a pas ce genre de débarras. Ce genre de débarras, ça appartient à une autre classe à une autre catégorie de débarrasseurs. Le jour où ça nous arrivera, ça nous fera tout bizarre. Et pour l'instant, on est vraiment là pour intervenir sur du débat. Alors, je dis pas qu'on en veut pas, si vous m'entendez. Et pour l'instant, on intervient vraiment sur beaucoup de débarras où il y a eu un sinistre, beaucoup de dégâts, ce genre de choses, en fait.
Parce que pour la peinture contemporaine, c'est le Bénézit, c'est l'espèce de gros bouquin, et puis vous avez toutes les peintures contemporaines.
Désolé, c'est comme ça, là.
Moi, j'aime bien. Alors, quand lui, il pose une question, il y a le temps.
Vous aviez rien à dire.
Et quand moi, je pose une question, c'est clair, hein, il est affreux. On l'appelle Joseph Staline, alors que je dis au revoir. Fan de Roger. Merci les filles, c'est bien vous, Jean-Loup.
Allez Jean-Luc.
Oui, Jean-Loup, c'est un petit peu ça la différence.
On vous remercie d'être intervenu. Vous retrouverez tous les contacts sur le blog des Grignoux. Tu viens de taper les Grignoux sans X, sans A sur Internet. On laisse la passe à l'émission suivante. Salut.
Bisous. Rouge.
Et merci.
Merci. Back up from her, get the hell out of here, yeah. We are in love and no deep inside of me. We'll have a house with our big family. So keep all your dogs and stairs and your jealousy. Let me feel up, let me feel it. Cause I don't give a damn what you say to me. I don't give a this one guarantee. I got a girl, oh. Bang, bang, baby, she's so fine. I got a girl, oh. So fine. Pretty girl, well you know she's mine. I got a girl and I couldn't love her more. Cause I was only what I was looking for. This hell love won't last too long, but we'll be here after the gone, yeah. You can keep your drugs and your dirty hands. Cause the trail is something I cannot stand. Oh, my baby knows how to please me well. That suits me fine, that suits me fine. Cause I don't give a damn what you say to me. Well, you know she's mine.